Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Les auditeurs de Voice of Indonesia, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'inclusion du genre est une discussion du comité de sélection des candidats à la direction de la Commission d'éradication de la corruption ». Le secrétaire général de l'ONU exhorte la communauté mondiale à agir contre le changement climatique. Un porte-avions américain arrive en Corée du Sud pour des exercices conjoints. Une fusée transportant un satellite franco-chinois décolle en Chine. L'Indonésie salue la décision de l'Arménie de reconnaître l'État de Palestine. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Ivan Yustia Vandana, membre du comité de sélection des candidats à la direction de la Commission d'éradication de la corruption, ou en indonésien abrégé en Pansel Capim KPK, a déclaré que son parti avait discuté des questions de genre dans la formation des candidats à la direction des institutions anticorruption. Comme on le sait, jusqu'à présent, la direction de la Commission d'éradication de la corruption a été dominée par des hommes, ce qui a encouragé un certain nombre de militants à exprimer la problématique homme-femme au sein de la direction de la Commission d'éradication de la corruption. Tel que rapporté par Kompas Dimanche, Ivan a déclaré que le panel n'avait pas déterminé que les femmes qui postulaient pour devenir dirigeants de la Commission d'éradication de la corruption avaient des critères particuliers. Selon lui, il existe de nombreuses femmes en Indonésie dont les capacités dépassent celles des hommes. Il a également souligné que le panel n'avait reçu aucune intervention de nulle part. Le panel n'a pas non plus discuté des candidats spécifiques. Selon lui, les 9 membres du panel ont estimé qu'ils avaient le mandat de trouver le meilleur leader de la Commission de l'éducation de la corruption. Comme on le sait, le mandat de la direction actuelle de la Commission d'éradication de la corruption prendra fin en décembre prochain. Le président Joko Widodo a ensuite annoncé le comité de sélection des candidats à la direction de la Commission d'éradication de la corruption fin mai. Ils sont composés de 5 représentants du gouvernement et de 4 représentants de la communauté. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté samedi la communauté internationale à prendre des mesures urgentes contre le changement climatique. Sur les réseaux sociaux X, Guterres a déclaré que le moment était venu de s'unir et de faire du changement climatique une réalité. Rapporté par Antara, il a également souligné l'importance de la période à venir en affirmant que les 18 prochains mois seront cruciaux dans la lutte pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius ou 20,7 degrés Fahrenheit et éviter le pire du chaos climatique. Il a également encouragé la communauté mondiale à créer une planète saine et un avenir plus sûr pour tous. L'ONU a donné la priorité aux efforts de lutte contre le changement climatique et a exhorté les pays à s'engager sur des objectifs plus ambitieux dans le cadre de l'accord de Paris. L'objectif mondial est de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius par rapport aux températures pré-industrielles afin de prévenir les impacts négatifs sur l'environnement. La marine sud-coréenne a annoncé samedi l'arrivée d'un porte-avion américain en Corée du Sud pour des exercices militaires conjoints visant à mieux contrer les menaces nord-coréennes. Selon l'AFP, le porte-avion de la marine américaine Theodore Roosevelt est arrivé à la base navale de Busan pour démontrer la solide posture de défense commune de l'Alliance Corée du Sud-États-Unis. Cette arrivée vise également à montrer une forte détermination à répondre à la menace croissante de la Corée du Nord. La fusée Longue Marche 2C, transportant des satellites français et chinois, a décollé samedi d'une base spatiale de Sichuan. L'AFP a rapporté que la fusée développée conjointement par les deux pays a été lancée vers 15h heure locale. Le satellite, appelé Space Variable Object Monitor, ou abrégé en SVOM, recherchera des sursauts gamma de puissantes explosions cosmiques qui fournissent des indices sur l'histoire de l'univers. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a salué samedi la décision de l'Arménie de reconnaître l'État de Palestine. L'Arménie a annoncé vendredi la reconnaissance de l'État de Palestine et l'a déclaré incompatible avec la violence contre la population civile. Après l'annonce, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur arménien en Israël et lui a adressé des sévères réprimandes. En réponse à cela, l'Arménie a déclaré qu'elle souhaitait construire une paix et une stabilité à long terme au Moyen-Orient. En plus de saluer l'annonce de l'Arménie, le ministère indonésien des Affaires étrangères via le réseau Socio X a déclaré que l'Indonésie saluait également le soutien de l'Arménie à la solution à deux États. L'Indonésie appelle également tous les pays à reconnaître la Palestine. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président assure qu'il n'y aura pas d'assistance sociale » pour les victimes du jeu d'argent en ligne. Le président Joko Widodo a confirmé qu'il n'y aura pas d'assistance sociale pour les joueurs des jeux d'argent en ligne, y compris la question des projets de politique d'assistance sociale pour cet objectif. Cela a été exprimé mercredi lorsque le chef de l'État a examiné le programme de pompage à la régence de Karanganyar, Java Central. Le ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, a souligné que ceux qui étaient les bénéficiaires cibles de l'aide sociale étaient les victimes de comportements des jeux d'argent en ligne et non les auteurs. Cela inclut les familles des joueurs des jeux d'argent en ligne qui subissent des pertes à la fois morales et matérielles. Il a expliqué que l'idée de fournir une assistance sociale aux victimes du jeu d'argent en ligne était l'un des matériaux proposés par le ministère de coordination du développement humain et de la culture en vue de la formation d'un groupe de travail pour l'éradication du jeu d'argent en ligne. Le ministre coordinateur du développement humain et de la culture a la qualité de vice-président du groupe de travail sur l'éradication du jeu d'argent en ligne, accompagnant le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Hadi Cahyanto, qui préside la structure de l'équipe ad hoc. La formation de ce groupe de travail est indiquée dans le décret présidentiel numéro 21 de 2024 concernant le groupe de travail pour l'éradication du jeu d'argent en ligne, publié à Jakarta le 14 juin 2024. Le ministre Muhajir estime que cette aide sociale aidera les familles victimes de comportements des jeux d'argent en ligne, car les familles, en particulier les enfants et les épouses, subissent non seulement des pertes matérielles, mais aussi des pertes de santé mentale. Cela conduit même à la mort, comme cela arrive dans de nombreux cas. Par ailleurs, le ministre indonésien coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Hadi Cahyanto, a déclaré que le groupe de travail sur l'éradication du jeu d'argent en ligne éradiquerait l'acte d'acheter et de vendre des comptes aux zones rurales. Le ministre Hadi a expliqué que cette méthode d'achat et de vente de comptes était mise en œuvre par plusieurs auteurs faisant partie d'un certain syndicat et pénétrant délibérément au rural. Le ministre Hadi Cahyanto a également expliqué que cette méthode a souvent été utilisée, provoquant l'enregistrement de nombreux comptes par le centre de rapport et d'analyse des transactions financières impliquées aux transactions des jeux d'argent en ligne. Par conséquent, Hadi a demandé à la police nationale et à l'armée nationale de déployer Babinsa et Babin Kamtipmas, qui est une unité territoriale de l'armée nationale qui a un contact direct avec la communauté au niveau du village ou du sous-district pour anticiper la pratique d'achat et de vente de comptes dans la communauté. Parallèlement, le groupe de travail enquêtera également sur qui se cache derrière la pratique d'achat et de vente de comptes du syndicat. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 23 juin. On commence par le 23 juin 2005, la Journée mondiale des veuves a été célébrée pour la première fois. La Journée internationale des veuves est une journée de commémoration ratifiée par les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées des millions de veuves dans de nombreux pays. Cette journée est célébrée chaque année le 23 juin. Cette commémoration a été lancée par la Fondation Lumba pour sensibiliser à la question des veuves. La première Journée internationale des veuves a été célébrée en 2005 et lancée par Lord Lumba et la présidente de la Fondation, Cherie Blair. Des événements ont eu lieu à Rwanda, au Sri Lanka, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Népal, en Syrie, au Kenya, en Inde, au Bangladesh et en Afrique du Sud. Le 23 juin 2003, la Journée de la fonction publique des Nations Unies a été instituée. La Journée de la fonction publique des Nations Unies est célébrée chaque année le 23 juin. Créée par résolution en 2003 pour célébrer la valeur et la vertu du service public envers la communauté. Le Conseil économique et social des Nations Unies stipule que le prix de la fonction publique des Nations Unies est décerné lors de la Journée de la fonction publique pour les contributions apportées au renforcement du rôle, du prestige et de la visibilité de la fonction publique. Cette journée marque également l'anniversaire de l'adoption par l'Organisation internationale du travail de la Convention sur les relations de travail. Cette convention constitue un cadre pour déterminer les conditions de travail de tous les fonctionnaires à travers le monde. Le 23 juin 2017, l'attentat terroriste au Pakistan. Le 23 juin 2017, une série d'attentats terroristes ont eu lieu au Pakistan, faisant 96 morts et plus de 200 blessés. Un attentat suicide à Quetta visant la police a été suivi de deux explosions dans un marché de Parachinar et de l'assassinat ciblé de quatre policiers à Karachi. La responsabilité de l'attaque de Quetta a été revendiquée par Jamaat ul-Ahrar et ISIL, tandis qu'aucun groupe n'a accepté la responsabilité de l'attaque de Parachinar. Selon l'armée pakistanaise, les deux attaques ont été coordonnées depuis des refuges terroristes en Afghanistan. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Memang benar semua kata mereka, benar ku telah dibutakan cinta.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est « L'Indonésie ajoute des billets pour les Jeux Olympiques de 2024 ». Le contingent d'athlètes indonésiens pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 comptait 21 athlètes inscrits la semaine dernière. L'opportunité d'ajouter des athlètes concurrents à Paris est toujours ouverte car plusieurs sports organisent encore des épreuves de qualification comme le tir à l'arc et l'escalade auxquelles participent des athlètes indonésiens. Les efforts visant à obtenir des billets supplémentaires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont donné de bons résultats car le tir à l'arc a officiellement augmenté le nombre de billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les billets supplémentaires ont été obtenus lors des épreuves par équipe. Cela a été confirmé par le vice-président général de pour le développement et la réussite de l'association indonésienne de tir à l'arc Abdul Razak jeudi à Jakarta. Comme on le sait, l'Indonésie participe actuellement à la troisième série de la Coupe du monde de tir à l'arc à Antalya en Turquie qui a lieu du 18 au 23 juin. Ce tournoi est la dernière opportunité pour les athlètes indonésiens d'ajouter des billets supplémentaires pour Paris en juillet prochain. La réussite, l'équipe indonésienne de tir à l'arc a réussi à remporter un billet pour les Jeux Olympiques pour l'équipe d'arc classique. Ce succès a porté le nombre d'athlètes indonésiens à 23 athlètes grâce à l'ajout de tir à l'arc au nom de Shifa Nurafifa Kamal et Reza Octavia. Auparavant, le tir à l'arc indonésien avait confirmé les billets de Diananda Khairunisa et Arif Dwi Pangestu dans les numéros d'arc classique individuel, féminin et masculin. Selon Abdul Razak, avec l'ajout de deux athlètes, l'équipe indonésienne de tir à l'arc peut participer à quatre épreuves, à savoir l'équipe d'arc classique féminin, l'arc classique individuel féminin, l'arc classique individuel masculin et l'équipe mixte. Abdul Razak, qui accompagnait directement les athlètes à Antalya en Turquie, a expliqué que l'Indonésie avait obtenu les billets après que l'Italie et le Japon n'aient pas pu devenir finalistes et champions à Antalya en Turquie. Citant la page mondiale de tir à l'arc, l'Italie a été battue par le Japon en quart de finale, tandis que le Japon a été battu par la Corée du Sud en demi-finale. Ces deux pays sont les principaux concurrents de l'Indonésie et ont la possibilité de faire passer l'Indonésie au 9e rang mondial avec 179,5 points, derrière l'Inde avec 185 points. L'Italie est classée 3e au monde avec 150 points et le Japon 17e avec 137 points. Selon Abdul Razak, tout le monde a dépassé le quota pour les rangs 1 à 7. Le quota a donc été attribué aux rangs 8 et 9, à savoir l'Indonésie et l'Inde. Avec l'ajout de ces deux billets, il complète les athlètes préalablement qualifiés dans 8 sports, à savoir le surf 1, l'aviron 1, l'haltérophilie 3, le badminton 9, le cyclisme 1, la gymnastique 1, le tir à l'arc 1 et escalade 2. C'est tout mon Indonésie.
Jadi lelaki terbaik. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Pekalongan à Java Central, qu'on connaît comme le nom de ville de Batik, possède également de nombreuses attractions touristiques marines exotiques. L'une d'elles est la plage de Selamaran, qui est une belle destination de tourisme maritime, facile à trouver car elle est située à la zone portuaire de Perikanan Nusantara Pekalongan. La plage de Selamaran est précisément située à Pekalongan du Nord, soit à environ 5 km du centre de la ville de Pekalongan, avec un accès routier suffisamment facile pour le passage de différents types de véhicules. Sur la plage de Selamaran, les touristes peuvent trouver une variété de vues et intéressantes pour prendre des photos. Les cyprès soigneusement alignés sont l'un des endroits incontournables. En dehors de cela, il doit aussi ressentir la sensation de la longue étendue de sable avec un panorama typique de tourisme maritime. Les magnifiques paysages, l'air frais et les vagues romantiques détendront les âmes fatiguées. Et ce qui n'est pas moins intéressant, vous pourrez observer le lever et le coucher du soleil. Sur cette plage, les touristes peuvent réaliser des activités photographiques avec une vue panoramique d'une beauté naturelle époustouflante. La superficie de la plage de Slamaran est d'environ 3,5 hectares et est équipée de diverses installations telles qu'un grand parking, des stands de nourriture et des bateaux de location prêts à emmener les visiteurs autour de la plage de Slamaran. Chers auditeurs, pour profiter de la beauté de cet objet de la plage de Pekalongan, les meilleurs moments sont le matin et le soir. N'oubliez pas d'apporter des vêtements de rechange et bien sûr un appareil photo pour capturer les endroits intéressants. Les visiteurs doivent également préserver la durabilité, la beauté et la propreté de la plage de Slamaran lorsqu'ils la visitent. Après avoir visité la plage de Slamaran comme destination pour trouver la tranquillité, il est garanti que vous serez rafraîchi et revigoré pour affronter vos activités quotidiennes.
Tak sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hati, kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. Kau dan aku, kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah. Bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est « La faculté de médecine dentaire de l'UGM » est classée parmi les 50 meilleures au monde selon le Wuri Ranking 2024. L'Agence de classement de l'Université mondiale pour l'innovation, ou World University with Real Impact, ou abrégé en WURI, a placé la Faculté de médecine dentaire de l'Université Gadjah Mada, ou FKG UGM, dans les top 50 mondiales. Cette réalisation est une fierté pour l'Université d'État située à Yogyakarta. Le doyen du FKG UGM, professeur Suryono, s'est dit heureux et reconnaissant que FKG UGM ait pu atteindre le top 50 mondial en termes d'innovation ayant un impact sur la société. L'inclusion de l'UGM et surtout de la faculté de médecine dentaire dans la liste des 100 universités mondiales, selon Suryono, ne peut être séparée de l'impact de l'innovation dans le domaine du service communautaire sur les activités du tridharma de l'enseignement supérieur qui n'est presque pas disponible dans l'université à l'étranger. Le classement FKG de l'UGM surpasse plusieurs universités prestigieuses à travers le monde. Dans la catégorie du développement de l'esprit d'entreprise, FKG UGM occupe la 6e place mondiale devant le domaine de la médecine dentaire de l'Université Harvard qui occupe la 12e place et l'Université d'Oxford est à la 3e place parmi 100 universités mondiales dans la catégorie de l'esprit d'entreprise. Parallèlement, en termes d'indicateurs de mobilité et d'ouverture des étudiants, FKG UGM est classé 27e au monde devant l'Université internationale de Tokyo classée 38e au monde. Selon le doyen Suryono, le succès de la faculté de médecine dentaire dans la création des réseaux internationaux et l'offre d'expériences mondiales à ses étudiants a joué un rôle majeur en encourageant la montée dans les classements mondiaux. Suryono a expliqué que le programme de cours d'été de la faculté de médecine dentaire UGM impliquait 10 co-organisateurs et consoeurs de FKG UGM à l'étranger avec le concept de partage des charges et des réalisations.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Cette fois, je vais parler d'une chanson de The Rain. The Rain, un groupe de musique indonésien originaire de Yogyakarta. Ce groupe, qui travaille depuis plus de 20 ans, reste fidèle à sa formation initiale. Les membres sont Indra Prasta, Iwan Tanda, Ipul Bahri et Aang Anggoro. De nombreuses chansons de The Rain parlent de tristesse comme Dengar Bisiku, Tolong Aku, Terlalu Indah, Ujung Pertemuan et un certain nombre d'autres chansons tristes font partie de l'identité de The Rain. Même la chanson au rythme effréné Terlatih Patah Hati est en fait une chanson qui raconte la tristesse sous un angle différent. Cette fois, The Rain est de retour avec le dernier single Patah Terbelah, qui est aussi une chanson triste sur le thème de la perte. Cette chanson raconte des sentiments de nostalgie qui ne peuvent pas être transmis directement car ils ne sont plus ensemble. Patah Terbelah est un pont vers le 8e album studio de The Rain qui sortira à l'occasion de leur 23e anniversaire à la fin de cette année. Bon, chers auditeurs, voici The Rain dont le titre est Patah Terbelah. Bonne écoute!
Aku melihatmu tersenyum seperti lurus ke arahku lewat fotomu di layarku menarik memori seketika kembali ke masa itu dengarkan kita yang pernah mencoba mengukir kisah di sana. Biarkanlah hati ini patah terbelah. Aku bangga di sampingmu sesaat untuk selamanya. Andai kau dengar lagu ini, ku yakin kau pun juga tahu lagu ini ada untukmu. Menarik memori seketika seperti kau ada di sini. Dengarkanlah rindu yang lirih bercerita tentang kita yang pernah mencoba di sana.
Voice of Indonesia.
Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlalu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz, et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.